Qui a faim et soif de Dieu ce matin?
Oui.
Qui est venu chercher ce matin une parole toute fraîche descendue du ciel? Amen. J'ai quelque chose de tout frais en moi qui bouillonne depuis quelques semaines. Le Saint-Esprit m'interpelle sur ma foi. Pourtant, j'ai la foi, j'aime Jésus, je crois en miracle, je crois qu'il peut tout. Alors pourquoi est-ce que le Saint-Esprit désire m'interpeller sur la foi? Et c'est comme si le Saint-Esprit me disait, Nathan, fais-moi un peu plus confiance au milieu de tes certitudes. Fais-moi un peu plus de place, là au milieu, de place où je peux parler, où je peux agir différemment. Et je crois qu'il y a la foi avec un grand F, c'est cette confiance absolue dans qui Dieu est, dans tout ce que Dieu fait, c'est cette ferme assurance que Dieu est avec nous. Mais je pense qu'il y a aussi une autre foi, une foi qui dépend, qui est plus liée aux circonstances, une foi qui se manifeste lorsque les choses semblent bloquées ou impossibles, une foi qui est plus engageante, plus osée. Que la diapo... Très bien, merci. Et le thème que je me rapportais ce matin, c'est Jésus qui le dit, il dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Parce que, je vais mettre la prochaine, la foi, c'est le pasteur Bill Johnson qui a dit « La foi vient changer le script de notre vie. » La foi offre une alternative à ce qu'on aurait vécu sans elle. C'est-à-dire que ma vie, elle suit son chemin, mais avec Dieu, elle peut suivre un autre chemin. Avec Dieu, il y a d'autres possibilités qui apparaissent. La foi nous donne la possibilité de proclamer autre chose que la réalité que nous voyons. Parce que la foi, elle vient d'en haut. Et je pense que des fois, on accepte des circonstances dans notre vie avec beaucoup de persévérance, mais dans lesquelles Dieu lui-même n'est pas d'accord avec ça. Des circonstances qui disent bah, « Bravo pour ta persévérance là-dedans, mais moi, mon plan, il est là pour toi. Moi, j'ai autre chose pour toi. Là, tu es en train de subir une circonstance, mais moi, j'ai un autre plan pour ta vie. » Et je pense que ça demande une foi engageante pour dire « Oui, Seigneur, moi, je vais aller dans la direction où tu m'envoies. » Et ce matin, j'aimerais développer cette phrase que Jésus a dit, qui est toute simple, mais qui est très surprenante, moi je trouve. Quand il dit « Va, ta foi t'a sauvé », je m'attendrais plutôt à lire « Va, ma grâce t'a sauvé » ou « Va, ma puissance t'a sauvé ». Mais Jésus m'a dit « Va, ta foi t'a sauvé ». C'est étrange quand même. Est-ce que vous savez à combien de fois Jésus dit ça dans l'Évangile? Si on prend les quatre évangiles. Est-ce que vous avez des exemples déjà? Des exemples. Où Jésus dit ça?
Le paralytique.
Non, Jésus ne dit pas ça paralytique.
Le centurion.
La femme qui perd le sens. Le centurion, il a dit que cela soit fait selon ta foi. Mais c'est pas ta foi t'a sauvé.
L'aveugle.
L'aveugle. Bartimée. Exactement, on en a deux sur quatre.
Encore deux.
Non, alors le Romain, il a dit ta foi est grande. Mais...
La fille est victime d'une maladie, peut-être. D'une maladie.
Oui, et alors exactement. Il y a, la femme en perte de sang, la femme pécheresse qui se jette aux pieds de Jésus et qui oint les pieds de Jésus. Le samaritain lépreux, vous savez l'histoire, mais les 10 lépreux qui sont guéris, et il n'y en a qu'un seul qui revient vers Jésus. Et Jésus va lui dire, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Mais je pense qu'on a dit les quatre. Les quatre, et ils apparaissent 7 fois dans l'évangile. 4 fois dans l'évangile de Luc, et ensuite d'autres occurrences dans les autres évangiles. Le premier point qu'on voit avec toutes ces personnes à laquelle Jésus a dit ça, c'est qu'elles avaient leur lot de souffrance. C'était des gens qui étaient rejetés par tous, avec des maladies incurables. Et à un moment donné, ils se sont dit, en fait, le monde, il n'a plus rien à m'offrir. Je ne peux plus rien chercher, j'ai tout épuisé déjà. Mais si j'arrive à atteindre Jésus, je serai guéri. Si j'arrive à atteindre Jésus, mon problème sera résolu. Leur foi n'a pas été de se dire, la vie est dure, ma foi c'est comme ça, je dois l'accepter. Ils ont voulu aller plus loin que ça. Et c'est pour ça que le premier titre de mon message, c'est l'audace de la foi. Ces personnes ont été audacieuses. Selon la définition de l'Académie française, l'audace est le mouvement de l'âme qui porte à des actions extraordinaires au mépris des obstacles et des dangers. C'est fort comme définition. Vous savez la différence entre l'audace et le courage ? C'est un peu des synonymes. Mais le courage, c'est lorsqu'on va affronter une situation qui est là, dont on n'a pas le choix. Alors que l'audace, c'est qu'on provoque une situation, on a le choix d'entrer dans quelque chose qui demande du courage. La femme en perte de sang, elle se savait impure par la loi. Il était strictement interdit pour elle de sortir de chez elle et de toucher les gens. Mais sa situation était tellement désespérée, il y avait ce mouvement de foi dans son âme et elle s'est dit, mais si seulement je touchais le manteau de ce rabbin galiléen, je serais guéri. Mais quelle audace! Quelqu'un va dire à cette femme qu'elle n'avait pas le droit de sortir, que c'était contraire à la loi.
La foi ose demander l'impossible, voire même l'inconvenant. Et qu'en est-il de cette femme de mauvaise réputation qui se pointe en plein milieu d'un repas d'un pharisien riche? Jésus est à table avec les invités, avec Simon le pharisien, et soudain il y a une femme qui rentre sans crier garde, elle se met aux pieds de Jésus, elle pleure, elle mouille les pieds de Jésus avec ses pleurs, c'est bizarre non? C'est même gênant, mais elle ne s'arrête pas là. Elle va essuyer les pieds de Jésus avec ses propres cheveux. Mais quelle audace! Mais quelle impudence! Je cite le pharisien choqué, pense en lui-même, si cet homme était prophète, donc Jésus, il connaîtrait qui et de quelle espèce est cette femme qui la touche. Vous voyez comment il réagit, le pharisien. Il trouve ça scandaleux qu'on puisse faire ça à un maître rabbin. Mais la foi, elle ose dépasser tous les obstacles. Et Dieu honore ce genre de foi. Dieu honore. Quand Jésus voit ça, il y a son cœur qui bondit à l'intérieur de lui. Il est ému de compassion. Parce que ces gens, il ne leur reste plus rien qu'un acte désespéré vers le Sauveur. Et donc, Dieu me pose ma question à moi. Nathan, elle est où ta foi ce matin ? Elle pose la question à nous tous. Est-ce qu'elle est où cette foi qui prend des risques, qui est audacieuse? Et je pense que le Saint-Esprit aimerait faire ces choses extraordinaires, qu'on fasse ces choses extraordinaires malgré le regard des autres. Soyons une église qui célèbre l'audace. Voilà, bravo! You can do it. Et si on célébrait un peu plus l'audace au milieu de nous? Et si quelqu'un venait ici, maintenant, d'entre nous, venait se jeter ici, non pas au pied de l'Église, mais au pied du Sauveur, en pleurs, comment est-ce qu'on réagirait? On dirait, ah, mais c'est malaisant. La prière, c'est pas maintenant, là c'est la prédication, la prière c'est dans le bureau pastoral après. Hein? Ou est-ce qu'on dirait, waouh, bravo, mais je prie pour toi, mais il n'y a pas de plus beau geste que de se mettre aux pieds de Jésus. On prie pour toi, on célèbre ton audace. Soyons une église qui ouvre le chemin vers le Christ, et pas l'inverse. Vous savez, en vacances, on a visité plein d'églises, des églises historiques. Et c'est vrai que quand on rentre dedans, c'est tellement austère. Il y a le lieu saint, le saint des saints, le parvis qui est élevé un peu à cette hauteur. En fait, c'est un peu pareil. Non, c'est quand même, ça change un peu. On a l'impression que le Christ, il est inaccessible et qu'il est là au fond. Et nous, on veut être une église qui a cette culture de faciliter l'accès à Jésus. Amen. Donc ça, c'était mon premier point, c'est l'audace de la foi, qui amène à mon deuxième point, qui est la puissance de la foi. Toutes ces personnes sont venues au pied du Messie parce qu'elles avaient une chose en commun, cette ferme assurance que Jésus était capable de faire l'impossible. Mais, et ça c'est très très important, la foi ne vient pas de tes qualités morales ou d'une certaine grandeur de foi. Ce n'est pas la grandeur de notre foi qui compte, mais la grandeur de celui en qui nous croyons. Amen. Et ça, ça change absolument tout dans notre vie de prière, dans notre vie de foi. Le mois dernier, je pédalais sur mon vélo, et je me suis fait une réflexion pendant que je pédalais. Je me suis dit, Nathan, je crois que tu n'es pas l'oreille la plus aiguisée du royaume de Dieu. C'est vrai, c'est dur des fois d'entendre la voix de Dieu, de discerner ce qu'il veut pour nous. Je ne suis pas l'oreille la plus aiguisée du royaume de Dieu. Ça m'a fait rire sur mon vélo. Et tout en pédalant, il y a le Seigneur qui me reprend. Et qui me dit, Nathan, si tu doutes de tes capacités à écouter, c'est que tu doutes de ma capacité de parler. Si tu doutes de ma capacité, si tu doutes de ta capacité d'écouter, c'est que tu doutes de ma capacité de parler. En d'autres mots, la foi n'est pas basée sur mes aptitudes, sur combien je suis bien, combien j'ai une belle oreille, mais sur les capacités illimitées de Dieu. Et elle est là, la foi. Elle n'est pas centrée sur moi, mais sur Dieu. Et des fois, moi, dans mes prières, je ne sais pas si ça vous arrive, mais j'aide un peu Dieu. Je conseille Dieu. J'explique tout le problème pour que Dieu puisse bien comprendre et qu'il puisse bien comprendre quelle est la solution. Bon, ça va, ça rigole un peu, donc c'est que ça vous arrive aussi. Et au dedans, je me dis, non, mais le Seigneur, il sait tout ça. Et lorsqu'on lit tous ces passages-là, on voit que dans la plupart, ces gens n'ont dit aucun mot à Jésus. C'est l'acte de la foi qui les a sauvés. La femme aux pertes de sang, elle ne dit aucun mot. Elle touche le manteau de Jésus, c'est écrit, à l'instant, elle fut guérie. La femme pécheresse, elle ne dit pas un mot. Elle pleure simplement aux pieds de Jésus. Et Jésus va lui dire, ma fille, tes péchés te sont pardonnés. Et je pense que des fois, nous proclamons beaucoup de choses par la foi, et c'est bien, il le faut. Il y a une puissance dans la proclamation, mais je pense qu'il y a aussi une puissance dans les actes. Je pense que des fois, on n'a rien besoin de dire devant le Seigneur, mais quand on se positionne d'une certaine manière, les choses, elles changent. Et dans cette puissance de la foi, on voit que Jésus apporte bien plus qu'une guérison. Et ça, c'est fort intéressant. On va lire le passage suivant, qui est justement le passage des 10 lépreux. Je vais vous le lire. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre, se tenant à distance. Ils élevèrent la voix et dirent, « Jésus, Maître, aie pitié de nous !» Dès qu'il les eut vus, il leur dit, « Allez vous montrer au sacrificateur !» Et pendant qu'ils allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, « Les 10 n'ont pas été guéris ? Et les 9 autres, où sont-ils ? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu ? Puis il dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Amen. Alors quand Jésus dit, il ne se trouve que cet étranger, ce n'est pas négatif. Hein. C'est pour dire, mais parmi tous les gens, les croyants, il a fallu que ce soit un non-croyant qui vienne rendre gloire à Dieu. C'est dans ce sens-là. Dans beaucoup de traductions, vous allez lire que quand c'est écrit « ta foi t'a sauvé », c'est parfois écrit « ta foi t'a guéri ». Parce qu'en fait, ça vient du mot grec « sozo », qui veut dire « guérir »,« sauver », mais qui va bien au-delà. Parce qu'on voit dans ce passage que les 10 ont été guéris. Les 10. Mais un seul a été sauvé. Donc en fait, quand Jésus dit « va, ta foi t'a guéri », ou « va, ta foi t'a sauvé », c'est bien au-delà d'une simple guérison physique. Il révèle une restauration qui est beaucoup plus profonde. Jésus a toujours plus à offrir que ce que nous lui demandons. Amen, c'est magnifique ça. On vient vers Jésus avec un besoin et Jésus, il donne toujours plus de ce que nous demandons. Les miracles visibles révèlent des réalités invisibles. Quand Jésus guérit une personne, il ne fait pas simplement de la guérir. On l'a vu plusieurs fois, il restaure l'identité. Il restaure la dignité de la personne. Il donne un nom. Il ne dit pas la femme pécheresse, il dit ma fille. Il donne même une vocation. Ce terme-là, sauver, sozo, va, ta foi, t'a sauvé, il est identique dans tous les passages que j'ai cités en grec. Et le verbe, il est au passé composé en français, mais il est au parfait en grec. C'est-à-dire, le parfait est toujours utilisé pour une action qui s'est passée dans le passé, je fourche un peu sur mes mots, dans le passé, mais qui a encore une répercussion dans le présent. Donc en fait, ce que Jésus est en train de dire, il dit, moi j'ai vu ta foi, j'ai vu le moment où tu as pleuré, j'ai vu le moment où tu as fait l'acte de foi, et sache que le salut a commencé à ce moment-là. Et que maintenant, si le miracle est réalisé, c'est parce que ça a commencé à un moment donné par ta foi personnelle. Et j'arrive à mon troisième point. Donc on a parlé de l'audace de la foi, la puissance de la foi, et maintenant... Un des plus beaux passages que je trouve, c'est la transformation de la foi. Et je suis émerveillé par ce point. On peut vraiment le lire dans les 7 passages. Il y a vraiment un enchaînement là-dedans de ces 3 points. Lorsque je lis ces passages d'évangile, je vois, moi je m'imagine beaucoup les choses. Je vois la femme qui est désespérée. Je vois l'aveugle qui crie. Je vois la foule qui est là, tout le brouhaha. Je vois une société qui écrase tous ces gens qui n'ont pas le droit de parler, qui n'ont pas le droit à la parole. Et je vois tout ce tumulte, tous ces gens, et je vois à un moment donné le Sauveur qui dit stop. Jésus dit stop. Et il y a tout qui s'arrête. Et dans ces passages, ce que je trouve beau, c'est qu'on a l'impression, pas seulement que tout s'arrête, mais que tout disparaît. C'est comme il n'y a plus de foule. Il n'y a plus personne. Il y a juste toi et lui, toi et Jésus. Une foi qui est personnelle, qui est face à face. Il y a tout ce mouvement, cette agitation, il y a l'acte de foi. Et il y a Jésus qui dit maintenant, ma fille, va, ta foi t'a sauvée. Relève-toi. Va en paix. Jésus, il dit d'abord, il dit « va ». Quand il dit « va, ta foi t'a sauvé », il dit « va ». Va, tu es libre. Va, il n'y a plus rien qui te retient. Va, j'ai payé le prix pour toi. Il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus ton péché qui te condamne. Il n'y a plus ton passé qui te condamne. Va. C'est pas merveilleux, ça, ce « va » de Jésus. Va, va où tu veux. Fais ce que tu veux, tu es libre. Libre de la maladie aussi. Et ensuite, il dit, va en paix. Dans plusieurs des passages, va en paix. C'est fini la lutte. C'est fini le combat. C'est fini les angoisses. C'est fini les pleurs qui n'ont jamais de réponse. Tu es en paix maintenant. reçois ma paix. Le Sauveur est arrivé. Tu peux te reposer maintenant. Il est là. Il a défendu ta cause. Il est intervenu. C'est pas merveilleux ça, quand Jésus intervient dans notre vie et qu'on a l'impression que tout s'arrête et que le combat est fini, que tout est accompli. Va en paix. Le shalom, la plénitude. Et ensuite, il va dire, ta foi t'a sauvé. Waouh, c'est une foi qui est personnelle. J'ai vu l'engagement de ta foi. J'ai vu l'engagement de ta foi. J'ai vu combien tu priais avec persévérance. J'ai vu ce qui se passait dans ta chambre quand tu t'agenouillais. J'ai vu que tu m'as mis à l'épreuve. Et me voici. J'ai mis quand même Éphésiens 2:8, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Ce n'est pas vraiment ta foi à toi qui sauve, c'est ta foi qui déclenche le miracle, mais c'est Jésus qui sauve, bien évidemment. Donc nous sommes sauvés par grâce. Et j'arrive gentiment à ma conclusion. Ces quatre personnages auraient pu choisir de ne pas importuner le maître. Ils auraient pu choisir de laisser Jésus passer devant eux, comme à Jéricho. Ils auraient pu dire « il est assez occupé » ou « il a assez de gens à parler ou à guérir, c'est pas pour moi cette fois-ci ». Mais ces gens-là, ils ont été audacieux. Même au-delà de ça, hein, presque impertinents envers Jésus. Ils sont venus le déranger. Et je reviens à mon début. Oui, on a plus ou moins tous la foi ici. On croit en Jésus, on croit que Jésus fait des miracles. Mais si Jésus nous appelait ce matin à aller un petit peu plus loin dans notre foi, si Jésus nous demandait de faire ce petit espace dans notre certitude, dans notre quotidien, parce que la foi, elle offre cette possibilité de changer notre histoire. La foi, elle nous donne cette alternative qu'on n'aurait pas vécue sans elle. Ces histoires qu'on a citées, elles ont un caractère unique. Bien sûr, ça doit être le miracle de leur vie. Et je pense qu'un des dangers, c'est de mettre la foi trop sur un piédestal et qu'elle est inatteignable. Mais je pense que la foi, l'audace de la foi se manifeste aussi dans toutes les micro-décisions que nous prenons dans notre quotidien. Et ça, je pense que c'est très important. Des fois, j'aime bien simplement observer, entendre ce que les gens disent, ce qui se passe. On apprend énormément en faisant ça. Et des fois, j'entends des choses qui sortent d'enfants de Dieu qui ne sont pas très bons, qui ne sont pas à l'espérance, qui ne sont pas à la foi, qui ne sont pas... ma vie, elle est devant Dieu, je prends la vie comme elle vient, mais je crois que Dieu peut changer ma situation. Et bien sûr, je le dis ça à moi aussi. Des fois, comme je l'ai dit avant, je me surprends à penser des choses et heureusement que le Saint-Esprit me reprend. Et je pense que nous devons laisser Dieu faire un autre chemin dans notre cœur aussi. Amen. Bon, j'espère que ce message il vous a encouragé et vous a fait dire... Non, mais je vais prier, en fait. Je vais prier. J'aime bien inviter les gens à se lever, si vous voulez vous lever, en signe d'acte de foi, de déclaration de foi. Saint-Esprit, on est là devant toi, autant qu'Église. Et on veut dire à nouveau notre foi, notre conviction, on veut à nouveau renouveler, Seigneur, notre foi et dire, Seigneur, nous croyons en toi, nous sommes là, viens bouleverser notre vie, viens bouleverser notre quotidien, Seigneur. Seigneur, viens nous interpeller dans toutes les micro-décisions que nous prenons, qui forgent notre vie, notre destinée. Viens nous reprendre, Saint-Esprit. Seigneur, viens enlever tout ce qui est de l'incrédulité dans notre cœur. À chaque fois qu'on pense que ce n'est pas possible, à chaque fois qu'on pense que tu vas agir mais que tu ne vas pas le faire, à chaque fois, Seigneur, qu'on a ces doutes qui sont là, qui sont humains, qui sont vrais. Mais Seigneur, je crois que tu veux nous emmener plus loin. Et je crois, Seigneur, qu'ici, à l'escale, tu as envie de nous emmener dans une foi audacieuse, dans une foi, Seigneur, qui encourage le prochain, qui dit « Vas-y, le Seigneur t'appelle, le Sauveur t'appelle. » Et Seigneur, je prie dans toutes les situations impossibles dans notre vie que tu viennes agir. Nous avons soif, Seigneur, de cette foi qui transforme. Père, j'ai une pensée particulière ici pour... Tu es dans ta famille et tu vois toutes les tensions qu'il y a dans ta famille. Tu pleures devant le Seigneur par rapport à ça. Le Seigneur a vu ta situation et il dit, mais maintenant, lève-toi. Proclame. Saisis la foi. Parce que moi, j'ai un autre plan que j'ai prévu pour ta famille. J'ai entendu tes pleurs, mais j'ai un autre plan pour ta famille. Vas-tu le saisir? Vas-tu le prendre? On va y aller ensemble. Amen.